Radio Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que nous vous présentons les nouvelles de ces midis. Voici les principaux titres. Poursuite des consultations politiques pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Moïse Monidela Idi, figure de l'opposition et responsable du parti conservateur de la nature et démocrate, a rencontré hier le conseil spécial du chef de l'État. À la grande surprise, le FCC, qui avait refusé de participer, était représenté notamment par des jeunes de cette plateforme. 38 cas de meurtres, d'assassinats et de justice populaire documentés depuis le début de cette année par le réseau pour le droit de l'homme basé à Butembo. Son coordonnateur appelle le gouvernement à restaurer la sécurité pour protéger les civils. Les violences des groupes armés persistent dans les territoires des Djougou, Irumu, Mahagi et Mombasa en Ituri. Selon le rapport des humanitaires, 2,5 millions de déplacés vivent dans plus de 70 sites dans des conditions d'extrême pauvreté. Nous en parlons dans ce journal avec notre invité Moïse Alieguera, un jeune leader de la région. C'est tout pour les titres. Bienvenue sur Radio Kapi. La politique n'a des sens et des substances que lorsqu'on œuvre pour l'intérêt général de la nation. Lorsque cet intérêt est en jeu, il faut une mobilisation tout azimut. C'est ainsi que Moïse Monidela Idi, une figure de l'opposition et responsable du parti conservateur de la nature et démocrate, justifie sa présence hier mercredi aux consultations politiques menées par le conseiller du chef de l'État, Eberhard Kolongele. Hier même, une délégation d'une vingtaine de jeunes du FCC de Joseph Kabila s'est également présentée à ces consultations. Billy Ivan Lutumba nous fait le point.
Au sortir de sa rencontre avec Achmir Eberhard Kolongele, Monidela déclare que toute idée d'interruption du mandat du président Tshisekedi est une erreur qu'il ne faut point admettre.
La nation congolaise est en péril aujourd'hui. Notre maison commune brûle, notre patrimoine commun, on ne peut pas les brader. Je ne dis pas aujourd'hui que je deviens membre de l'Union sacrée. Non, je suis de l'opposition. Vous voyez, on disait, oh, Félix va ouvrir. Mais maintenant qu'il ouvre, on dit, non. Ici, l'intérêt de la nation est en jeu. Et là, les patriotes doivent se mettre ensemble.
Surprise dans la suite des délégations reçues. Alors que le FCC a annoncé dès l'entame des consultations ne pas être concerné, Maître Jeannot Lompempe s'affiche avec d'autres jeunes pour le compte de cette plateforme de l'ancien président Joseph Kabila.
Pour nous, les Front commun pour le Congo, la priorité c'est d'abord comment récupérer nos territoires. Soit vous soutenez les Rwanda, soit vous êtes pour la balkanisation du Congo. Le combat de Kabila, c'est d'abord la passion du Congo. Il a aussi intérêt de porter sa contribution. Vous savez que l'FCC, jusqu'à peu du contraire, nous sommes à un comité de crise. Vous pensez que les gens qui sont dans le comité de crise peuvent avoir le pouvoir juridique de sanctionner les autres? C'est un non-événement. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est normal, mais ce qui compte, c'est d'abord le Congo.
Signalons qu'au courant de la journée, un cadre du FCC a circulé dans les réseaux sociaux un document signé par Raymond Tshibanda depuis août 2024, signifiant à Jeannot Lompempe qu'il ne pouvait point se prévaloir être personnalité du FCC.
Certains déplacés en provenance de Goma dans le Nord Kivu, ayant fui les combats entre le M23 soutenu par le Rwanda et les FARDC, sont arrivés à Lubumbashi. Si certains sont hébergés dans des familles d'accueil, d'autres sont logés au foyer social de la commune des Kamalondo. Ces derniers ont reçu l'assistance du gouvernement provincial du Haut-Katanga, un geste applaudi par les bénéficiaires qui disent avoir tout abandonné à Goma. Jean Gandou.
Ce sont 10 familles composées de 44 personnes, dont 12 enfants, qui sont arrivés à Lubumbashi depuis plusieurs semaines. Ils sont installés au centre du foyer social de la commune de Kamalondo avec l'aide de la division provinciale des affaires sociales. Dépouillés de tout, ils vivent dans des conditions précaires, exposés à des intempéries, à toutes sortes de maladies, de mains sales, dont le choléra. Il y a quelques jours que le ministre provincial de la Santé et Affaires sociales leur a rendu visite. À cette occasion, Joseph Sambibulanda s'est imprégné de leurs conditions de vie. Et ce mardi, ses déplacés ont reçu une assistance constituée des vivres et non-vivres, dont les sacs de farine, de maïs, de riz, de haricots, de l'huile, de braise, de seaux et autres ustensiles de cuisine. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga a aussi mis à leur disposition des ballots d'habits et de chaussures. Ils ont ainsi commencé une activité génératrice des revenus pour leur autoprise en charge. Chacune des familles a aussi reçu une enveloppe pour se chercher une maison à louer afin de libérer ce centre de formation sociale et laisser ainsi les élèves qui les fréquentent étudier dans de bonnes conditions.
La communauté musulmane Ahmadiyya de la région du Grand Bandundu apporte son assistance en vivres non vivres aux déplacés des Kouamout vivant dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, selon Fanny Souleyman, missionnaire local de cette confession religieuse à Bandundu. Ce geste de générosité vise à mettre en pratique la recommandation du Saint-Coran consistant à assister les nécessiteux. Cette assistance s'inscrit dans le cadre des activités des musulmans relatives à la clôture du mois de Ramadan. Fanny Souleyman Malik s'est exprimée au micro d'Irène Mboma Louzolo.
C'est à l'occasion des clôtures du mois de Ramadan que nous, la communauté musulmane Ahmadiyya de Grand Bandundu, nous sommes venus assister nos frères déplacés vivant dans la ville de Bandundu. Nous leur avons apporté les choses telles que les cartons de savon, les cartons de boîtes de tomates, les jus. Et nous leur avons apporté aussi 3 sacs de foufou, 2 sacs de maïs déjà moudré. Nous leur avons apporté aussi les choses à manger telles que les foufous déjà bien préparés avec la sauce de cuisse. Cet geste de générosité a été fait grâce aussi à notre ONG Humanity Fest qui signifie au service de l'humanité. Et c'est surtout en suivant les enseignements de notre bien-aimé Mohammed, que la paix d'Allah soit avec lui, qui nous recommande d'aider aussi les veuves, les orphelins, les nécessités. C'est ainsi que nous leur avons assisté. Et surtout en suivant aussi notre slogan qui dit « Amour pour tous, haine pour personne ».
Nous les disions dans le titre. En Nord-Kivu, le réseau pour le droit de l'homme, REDO, une organisation de défense des droits humains basée à Butembo, exprime son inquiétude face à la recrudescence de l'insécurité dans cette ville et ses environs. Selon son coordonnateur, 38 cas de meurtres, d'assassinats et d'injustice populaire ont été documentés par le REDO depuis janvier de cette année. Le REDO demande aux autorités de renforcer la sécurité des populations. Mwindo Wasi Vignoa s'est entretenu avec Martial Papi Mukeba.
Pour le premier trimestre de l'année 2025, le REDO a documenté 38 cas de meurtres et assassinats à vue de Butembo et Aviro, dont 31 personnes de sexe masculin et 7 de sexe féminin, 14 cas au mois de janvier, 9 cas au mois de février et 15 cas au mois de mars. D'ailleurs, c'est à ce mois où on a eu plus de cas. De ces 38 cas, 11 sont des cas de justice populaire, à terme de pourcentage 29%. C'est dans la commune qui même, mais aussi aux environs de la ville de Butembo où on a eu plus de cas de meurtres et assassinats. À titre de recommandation, les REDO appellent aux responsables des services de sécurité de fournir plus d'efforts pour prévenir d'autres cas similaires. Aux instances judiciaires de la place, de diligenter des enquêtes sérieuses afin de dénicher les auteurs et les juger conformément à la loi. Aux jeunes d'éviter la justice populaire.
Nord-Kivu, toujours, la situation reste tendue et volatile. C'est jeudi au chef-lieu du territoire de Massissi. Cela fait suite à des violents affrontements survenus dans la matinée entre le rebelle du M23 et les combattants Wazalendo dans les villages environnants. Les détonations d'armes lourdes et légères ont sémé la panique parmi la population civile, selon nos sources. Le point avec Blaise Jordan Shindani.
Ces combats ont éclaté tôt le matin autour des 5 heures locales dans les alentours du village Kani, près du centre de Massissi, indiquent les sources locales. Certaines sources indiquent que ce sont les combattants Wazalendo qui auraient lancé une offensive contre les rebelles M23 pour tenter de déloger ces derniers du chef-lieu du territoire de Massissi qu'ils occupent depuis plusieurs mois. D'autres sources parlent d'une contre-offensive des rebelles M23 contre les Wazalendo venus de l'axe Niabiondo et qui menace par des attaques successives leur position de Massissi centre depuis lundi. Surpris par ces attaques matinales, les habitants de Massissi, en particulier des quartiers Imara et Birere autour de l'hôpital de référence, sont restés terrés dans leur maison. Aucun bilan de ces combats n'est disponible pour l'instant. Selon nos sources, l'intensité des combats a baissé depuis 9 heures locales. Toutefois, la situation demeure toujours volatile, disent nos sources.
Et puis nous apprenons qu'un calme est observé ce jeudi dans la commune rurale de Walika, les chefs-lieux du territoire éponyme. Selon plusieurs sources locales, les militaires FARDC accompagnés des combattants Wazalendo ont repris le contrôle de la cité hier soir. Cela fait suite au retrait de rebelles du M23 qui occupaient la cité depuis le 20 mars dernier. Entre dimanche et mercredi, des échanges de tirs ont opposé à plusieurs reprises les Wazalendo rebelles du M23 qui quittaient la zone, notamment sur l'axe cité belge et le village Ngora et Mutakato en direction de Goma, exacerbant la panique dans la cité. Une opération de ratissage menée dans le centre de Walikale par l'armée congolaise et ses alliés locaux serait en cours selon nos sources. En Ituri, des combats ont opposé mercredi les miliciens du groupe armé Chiniatuna aux rebelles des ADF à Mont Oyo, une forêt située dans le sud du territoire d'Irumu. Selon des sources locales, la milice Chiniatuna a délogé ces rebelles de leur bastion. La société civile de ce territoire appelle les forces coalisées FARDC et armées ougandaises à relancer les opérations militaires contre les ADF afin de protéger des vies humaines. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Mardi, des pygmées se rendent dans la forêt pour vaquer à leurs occupations. Sur place, ils constatent un mouvement suspect d'hommes armés. Le soir, ils alertent les responsables du groupe armé Chiniatuna. Mercredi, des éléments de cette milice se lancent à la poursuite de l'ennemi, affirment nos sources. C'est à la hauteur de Mont Oyo que les belligérants ouvrent le feu. D'après nos sources, ces affrontements durent près de 4 heures, soit de 12 heures à 16 heures locales. Pascal Kisezo, le président de la société civile du territoire d'Irumu, alerte les autorités militaires sur la présence des ADF dans cette région après plus d'un mois d'accalmie.
Et aujourd'hui, tel qu'il y a déjà un cas suspect où des hommes armés sont déjà dans cette partie de la chefferie de Walesifukut, ça nous inquiète déjà. C'est pourquoi nous demandons aux forces armées et la coalition UPDF et FARDC de vite organiser des patrouilles de combat dans cette partie de la chefferie de Walesifukut afin de neutraliser ses ennemis pour qu'ils n'arrivent pas encore de faire des exécutions dans la chefferie de Walesifukut ou Walendubindi, Banyari Tchabi afin que la population soit protégée.
Toutes nos tentatives pour avoir la réaction des autorités militaires n'ont pas abouti. Bounia, Jean-Claude Le qui dit les Radio Capi.
Face à la recrudescence du banditisme urbain à Kalemie, le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika appelle la population à dénoncer tout cas suspect. Il a lancé cet appel hier mercredi à Kalemie lors d'une rencontre avec la presse. Selon le ministre provincial de l'Intérieur, la majorité des malfaiteurs identifiés seraient des évadés de la prison centrale de Kalemie en février dernier. Il souligne que certains d'entre eux ont déjà été arrêtés. Le point avec Paulin Munanga.
Johnson Kasongo, ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika, annonce qu'une quinzaine des évadés de la prison centrale de Kalemie sont déjà arrêtés. Il précise que 379 détenus se sont évadés en février dernier. La prison centrale de Kalemie comptait plus de 800 détenus. Dans le cadre de la lutte contre la recrudescence du banditisme urbain à Kalemie, le ministre a réuni les chefs de quartier pour leur signifier que la plupart de ces évadés se cachent dans la population et que chacun d'entre eux devrait jouer son rôle en dénonçant tout cas suspect. Dans les soucis de la mobilisation générale, le ministre provincial appelle aussi les professionnels des médias à sensibiliser la population pour lutter contre la criminalité dans la ville. Signalons que depuis plusieurs semaines, la ville de Kalemie fait face à une criminalité croissante. Plusieurs cas de cambriolage avec armes à feu et armes blanches sont signalés dans beaucoup de quartiers de la ville. Le gouvernement du Tanganyika met à la disposition de la population un numéro vert pour contacter les services de sécurité en cas d'urgence.
L'instabilité du taux d'échange à Bukavu et dans la province du Sud Kivu en général affecte considérablement le panier de la ménagère. Cette fluctuation aggrave la situation économique déjà précaire en raison de la rareté de la monnaie due à la fermeture des banques et des institutions des microfinances dans la ville de Bukavu. Nous sommes au Sud Kivu, les devises deviennent rares dans les circuits tandis que le taux des dollars oscille entre 2800 et 3300 francs congolais. Précise Blaise Chindani.
La fermeture des banques à Bukavu complique les transactions monétaires. Seuls les changeurs occasionnels de monnaie communément appelée cambiste à Bukavu sont opérationnels. Mais eux aussi ne sont pas nombreux à cause des cas de braquage devenus très courants. Le taux d'échange n'est plus contrôlé. La Banque centrale du Congo qui publiait les taux officiels est fermée depuis l'entrée à Bukavu des rebelles de M23 et leurs accompagnateurs de l'armée rwandaise. Un dollar se négocie entre 2800 et 3300 francs congolais. Mais en cas de retrait, les maisons qui font les transactions ne servent pas leurs clients en devises, mais seulement en francs congolais et cela au taux le plus bas. Joël Balibounon, ménagère de son état, raconte les difficultés auxquelles elle fait face.
Nous traversons un moment difficile pour faire les retraits. On nous oblige de récupérer de l'argent en francs, 2800. On est obligé de le prendre parce qu'on ne peut pas vivre sans l'argent. Certains nous proposent d'aller le faire au Rwanda ou de chercher les agents des banques qui peuvent nous faciliter, mais c'est pas facile de les retrouver.
Plusieurs opérateurs économiques ont suspendu les ventes de leurs produits faute des banques pour conserver l'argent vendu. C'est le cas pour la société Bralima Bukavu et quelques pétroliers de la ville d'Ouvira.
Actualité internationale. La Hongrie a annoncé aujourd'hui son retrait de la Cour pénale internationale CPI au premier jour de la visite à Budapest du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, visé par un mandat d'arrêt de cette juridiction. Le gouvernement va entamer la procédure de retrait en accord avec le cadre international légal, a annoncé sur Facebook le directeur de cabinet du premier ministre nationaliste Viktor Orban. Et puis en Centrafrique, depuis mercredi, les avocats observe une grève de 8 jours en désertant les tribunaux. Cette action initiée par le Conseil de l'Ordre des avocats vise à dénoncer le non-respect de règles déontologiques de leur profession par certains officiers de la police judiciaire et autorités politiques. Déjà, cette mobilisation perturbe le fonctionnement du système judiciaire du pays. Devant l'entrée du palais de justice de Bangui, une dizaine d'avocats vêtus de toges noires avec un col blanc expriment leur mécontentement. Ils ont déserté des tribunaux, boycottant les audiences, empêchés par des officiers de police judiciaire de rencontrer ses clients, placés en garde à vue à l'office central de répression de banditisme. Maître Arlette Sombo dénonce une violation de droits de l'homme. Nous nous battons pour pouvoir défendre nos clients devant la barre, mais nous n'y avons pas accès. On nous dit qu'ils sont interrogés, que le procès-verbaux sont déjà transmis au procureur qui a requis l'ouverture d'une information. Comment plaider si nous ne suivons pas la procédure du début à la fin, s'interroge-t-elle.
L'invité.
Notre invité est Moïse Aliéguera, l'un des jeunes leaders de la province de l'Ituri. Avec Ronelyne Timbonera, ils abordent la crise humanitaire actuelle dans cette région de la RDC et partagent ses attentes concernant le renforcement de la présence de troupes ougandaises dans plusieurs entités de la province de l'Ituri. Suivez leur entretien.
Moïse Aliéguera, bonjour.
Bonjour, monsieur Ronelli Timonera.
En qualité de notable de la province de l'Ituri, que retenir de la situation socio-sécuritaire actuelle dans cette entité?
Malgré l'état des sièges institué depuis le 3 mai 2021, les violences des groupes armés se perpétuent contre les civils et cela provoque l'exode sans fin des populations déplacées des Njougou, du Rumu, des Maagi et des Mambasa, qui sont sans abri, ni eau potable, ni pain, ni soins médicaux. À ce stade, c'est la catastrophe dans la province de l'Ituri.
Combien de personnes seraient affectées par ces violences des dernières années?
Nous pouvons dénombrer, selon plusieurs rapports de OTIA, 2 700 000 personnes déplacées, regroupées dans plus de 70 sites de déplacés en Ituri. Je dois vous avouer que les conditions sont cruelles, inhumaines et déshumanisantes. Les gouvernements doivent agir irrigemment pour sauver ces personnes et surtout des enfants et de femmes enceintes qui se comptent par des centaines de milliers.
Changeons de chapitre pour parler de cette présence de l'armée ougandaise dans certaines localités de la province des Lituri. Cette présence renforcée de l'armée ougandaise intervient dans le but de traquer les groupes armés responsables de l'insécurité. Vous pensez que cette démarche peut vraiment résoudre la crise sécuritaire dans la région?
Ben oui, quelque part, cela peut être une des solutions à cette crise sécuritaire qui n'a que trop duré. Mais le gouvernement de la République doit songer à construire une armée républicaine qui doit défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays, la RDC, sans trahison.
C'est-à-dire que vous remettez en cause les résultats de cette présence des forces UPDF sur les sols congolais?
Bon, je n'ai pas remis en cause, mais j'ai dit que ça peut être une des solutions. Parce que ce n'est pas une mutualisation qui doit continuer ou bien qui doit jouer le même rôle que nos forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Cela couvre uniquement la province d'Ituri. Et donc, dans d'autres provinces, nos forces de défense et de sécurité assurent mission régalienne. Et pour que cela soit fait de manière responsable, de manière efficace, nous devons avoir une armée républicaine composée de fils et filles du pays qui ne vont pas trahir notre pays. Parce que vous savez, aujourd'hui, si nous avons l'agression rwandaise, c'est parce que il y a des Congolais, des Congolaises qui ont décidé de trahir notre pays, et notamment Corneille Nangaa qui a trahi le pays avec toute sa bande.
À ce stade, que devrait faire le gouvernement congolais pour mettre un terme à la crise actuelle dans la province de l'Ituri?
Bon, le gouvernement doit d'abord maintenir la pression militaire contre tous les groupes armés actifs dans la province de l'Ituri. Deuxièmement, le gouvernement doit activer les programmes de désarmement et de démobilisation PDDR-CS qui malheureusement peine à bien fonctionner depuis son institution par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faudrait y mettre de gros moyens pour que ce programme soit opérationnel parce que après la pression militaire, c'est sûr que les groupes armés se sentiront coincés. Et ceux-là qui voudront bien rendre l'arme, ils vont venir au centre du pré-cantonnement, déposer les armes et entamer le processus de démobilisation et de réinsertion communautaire. Troisièmement, le gouvernement doit actionner la justice. Nous avons plusieurs responsables de cette crise qui sont libres, dont certains ont des fonctions au sein du Parlement, au sein du gouvernement, au sein des différents services publics de l'État. Cela doit s'arrêter. Ils ne doivent pas se sentir libres comme s'ils étaient de bons citoyens qui jouissaient de leurs droits alors que ce sont des criminels. Ils doivent être arrêtés, poursuivis. C'est une meilleure façon de redonner l'espoir à ces millions de vies qui sont désespérées aujourd'hui.
Pour terminer, deux groupes armés viennent de voir le jour en l'espace de 2 mois dans la province de l'Ituri, s'ajoutant ainsi à d'autres groupes déjà hyperactifs. Quelle analyse faites-vous de ces phénomènes?
Bon, écoutez, celles et ceux qui pensent que les groupes armés sont un moyen d'avoir le pouvoir au Congo, ce n'est pas un bon moyen. Ce ne sont pas les groupes armés qui doivent construire notre pays. Ce qui construira notre pays, c'est la prise de conscience, c'est le patriotisme, le nationalisme, le travail. Ce ne sont pas les groupes armés. Donc, qu'ils arrêtent de manipuler la jeunesse.
Moïse Aliéguera, merci.
Merci beaucoup, Monsieur Timonera.
Moïse Aliéguera, jeune leader de la province de l'Ituri, nous a décrit la crise humanitaire actuelle dans cette région de la RDC et a partagé ses attentes concernant le renforcement de la présence de troupes ougandaises dans plusieurs entités de la province de l'Ituri. Au micro de René Timbonera, merci d'avoir suivi notre journal parlé. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et intéressantes. Defs Vita qui a assuré la mise en onde, coordination Blaise Shindani Kambala, supervision Martin Sebujangwe, Gisèle Kaja la présentation. Restez avec nous sur Radio Capi pour des analyses approfondies et des reportages exclusifs. N'oubliez pas surtout de visiter notre site web pour des articles détaillés et des vidéos. Nous vous souhaitons une agréable journée.